Les jardinières.
Bonjour à tous, bonjour à tous les leftos, surtout du samedi matin. Bienvenue dans les jardinières. Quelle joie de vous retrouver. Bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Notre professionnel du jardin sera en notre compagnie jusqu'à 8h. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Déjà les matinales, du vent, de la neige, du soleil et de la pluie, le cocktail est complet, complètement complet, pour que nos sols soient bien humides et nos espaces verts plus vraiment entretenus. Oui, mais nous, le problème, c'est qu'on trépigne d'impatience de retourner au jardin. Que peut-on faire pour préparer nos plantes et nos arbres au printemps? Quels sont les bons gestes à adopter en ce moment au jardin? On répond à toutes vos questions grâce à Fabrice Rondet.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct et par plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Amateur ou véritable assidu de jardin, peu importe, Fabrice Rondet s'intéressera à votre problème personnellement. Et si votre choix est encore, votre voix plutôt, est encore un peu fatiguée de si bon matin, vous pouvez opter pour la solution du SMS et nous envoyer le mot jardin en début de message, un espace suivi de votre question, le tout au 939. Il existe également le formulaire internet sous l'onglet émission, questions jardinières. Et dans les deux cas, donnez-nous un maximum de détails sur votre problème de jardin afin que Fabrice Rondet puisse développer sa réponse au maximum.
Tout est dit le samedi dans les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Marie-Thérèse de Bouécourt n'a pas attendu, elle a tout de suite pris son téléphone, elle est en ligne avec nous et pour vous poser des questions Fabrice. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Marie-Thérèse.
Bon réveil. Bon réveil.
Merci. Merci. Merci
à tout le monde.
On écoute vos questions, Marie-Thérèse.
Alors, j'ai trois questions. La maladie du buis, est-ce que je peux la soigner avec du savon noir?
Alors écoutez, pour le buis en général, ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est pas une maladie, mais en fait, c'est une chenille.
Donc, c'est des chenilles.
Voilà, exactement.
Je savais déjà ça.
Très bien. Alors, cette chenille, en général, on va s'y attaquer plutôt sur sa période de ponte. On a deux périodes. On a juste avant le mois d'août et puis juste après le mois d'août. Tout dépend un petit peu comme la saison s'est avancée. On peut commencer de surveiller ça à partir de juin, mi-juin. On peut avoir déjà deux, trois bestioles qu'on peut voir dans le feuillage. Et après, normalement, sur mi-juin, fin juin, début juillet, là, on voit vraiment les bonnes attaques, les bons ravages. Donc, il faudrait peut-être anticiper un petit peu. Après, on fait un deuxième traitement. Je pense que le savon noir, moi, n'est pas du tout indiqué. En tout cas, j'ai pas eu de retour positif à ce niveau-là. J'ai même pas entendu parler de personnes qui ont fait ça. Donc, on a des produits qui existent sur le marché. Il y a des gens qui ont fait des prélèvements aussi manuels, mais vu quelle importance cette chenille se développe, c'est quasiment pas possible d'en arriver au bout. Puis en plus, elle est assez discrète, donc ça doit prendre un temps pas possible. Si vous n'avez qu'une seule pièce dans votre jardin de buis, ça peut aller. Mais si vous avez une petite haie, c'est pas possible. Oui, alors il vaut mieux y aller peut-être d'une façon un peu plus radicale, parce qu'ici on n'a pas vraiment de prédateurs, si ce n'est peut-être les oiseaux. Et puis après, la deuxième période d'intervention, ce serait juste après les grandes chaleurs. Donc en général, on recontrôle sérieusement à partir de la mi-août, avec un deuxième traitement qui va suivre de nouveau. Donc il y aurait quatre traitements à faire, grosso modo, pour éradiquer ça. Mais c'est chaque saison qu'il faut surveiller, parce que chaque année, elle gagne un peu du terrain dans notre région.
Mais d'habitude, j'avais entendu dire que le hou n'était pas une plante qui était... Oui, moi j'ai jamais entendu ça,
cette pyrale.
Oui.
Non, alors effectivement, ça fait quelques années quand même qu'elle est par chez nous, mais elle a commencé de se développer assez localement. On l'a rencontrée d'abord dans certains lieux, et puis maintenant, plus les années passent, plus on commence de la rencontrer dans un nombre croissant de villages autour de chez nous. Donc il faut commencer d'être très vigilant, parce que chaque année, elle gagne un peu du terrain.
Oui, parce qu'elle a cette haie, elle a 50 ans. Puis elle est belle, c'est impressionnant.
Ouais.
Bon,
Alors, si vous ne loupez pas votre traitement, si vous avez une attaque qui se fait, qu'il y a le feuillage qui se fait un peu manger, voire un petit peu plus, si vous arrivez à traiter et puis à faire mourir ces chenilles, si vous mettez un petit peu d'engrais au début de l'année, mais juste au début de l'année, votre haie devrait se réveiller. Mais il ne faudrait pas répéter, faudrait pas que ces attaques se répètent, que vous n'agissiez pas, parce que là, votre haie va s'affaiblir, elle va être en période de stress. Il suffit de froid tardif encore ou de période sans eau pour que votre haie subisse des stress importants et puis que après sa vie en soit plus touchée.
D'accord. Oui, j'ai compris. Laurier sauce maintenant, deuxième question. Il est trop haut, j'aimerais le rabattre et puis refaire des pousses. Comment procéder?
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est, comme vous l'avez dit, vous le taillez, vous le reformez, vous l'éclaircissez un petit peu. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des extrémités, vous raccourcissez un petit peu les têtes, vous dégagez la partie basse du rameau que vous avez pris des feuilles proprement avec un couteau qui coupe bien. Vous le mettez dans un petit pot avec un terreau léger, de préférence prévu à cet effet. Vous pourriez mettre un petit peu des hormones de croissance sur la coupe que vous avez pratiquée pour favoriser un enracinement. Et puis après, vous mettez cette bouture dans ce petit pot de terreau humide. Il ne faut pas que ce soit détrempé, pas qu'il y ait du pourrissement, mais vraiment garder humide et un enracinement devrait s'opérer assez rapidement derrière. Mais attendez que la végétation parte un petit peu pour garantir une reprise plus facile. Attendez encore
racines.
Peut-être le mois d'avril, mai pour que ça parte vraiment, vraiment bien et rapidement.
Il ne faut pas le tailler maintenant quand même.
Ben, écoutez, maintenant, vous l'avez où maintenant ce laurier?
J'ai mis dehors.
Vous l'avez déjà mis dehors?
Oui.
Ouais, alors regardez.
Vache ou bien non?
Non, c'est pas du tout ça. S'il y a des tonnements dans ma voix, c'est que tout simplement faites attention parce que l'année passée, on a eu des retours de froid assez violents. Et puis,
Je le rentre.
Voilà, il faudrait le rentrer, il faudrait contrôler les températures.
Au garage, hein.
Très bien, alors vous le rentrez la nuit puis vous le sortez les belles journées. Oui, alors faites comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le tailler maintenant, mais pour les boutures, il faut les maintenir à l'intérieur, pas les mettre dehors. Hein.
Ah, d'accord. Okay. Oui, de toute façon.
Ok, très bien.
Non, c'est bon, mais c'est une belle plante. Hein.
Oui, alors c'est vrai que c'est des plantes qui sont assez fournies et qui sont très jolies à regarder, qui ont une croissance assez régulière. C'est vrai que c'est des belles plantes.
Et puis, il me donne de la bonne soupe.
Ah, aussi, oui.
Vous aviez encore une question, Marie-Thérèse?
Oui, voilà. J'ai un kiwi. C'est un arbre magnifique qui m'épate. Il n'a qu'un carré de 40 cm de côté. Et ne vais j'ai jamais comment le tailler. Il me semble qu'il est trop fourni. J'ai lu maintenant.
Oui, alors pour le tailler, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le reformer déjà pour qu'il aille s'adapter à l'espace que vous lui réservez. Il faut revenir en arrière aussi sur les branches les plus importantes et puis ce qui va porter le fruit cette année. Il faut supprimer tout ce qui est petit, chétif, toutes les branches qui vont dans un endroit où c'est que vous ne voudriez pas, où c'est que c'est trop touffu pour apporter de la lumière, pour que les branches les plus fortes se développent bien mieux. Et puis, vous pouvez le raccourcir peut-être un petit peu sur les pousses les plus importantes, parce qu'un kiwi est capable de faire des pousses qui peuvent aller, là j'ai un client,
2 mètres.
Voilà, 2 mètres bien facilement. Donc vous pouvez en supprimer une partie de ceux-là pour garder vraiment les plus jolis, pour porter le fruit, pour continuer de développer votre plante si vous avez encore la place pour le faire. Mais c'est difficile par téléphone comme ça sans le voir de vous donner des détails très précis, quoi. Le mieux ce serait de regarder avec un professionnel et puis de visu dire ce qu'il faut faire. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est délimiter l'espace qu'il doit occuper. Regardez pour supprimer tout ce qui est mal placé, tout ce qui est faible, tout ce qui est sec, pour vraiment qu'il ait de la place que pour les parties saines. Et puis après, regardez pour supprimer une partie des branches qui sont développées l'année passée pour favoriser le démarrage cette année de nouvelles pousses. Et puis recentrer comme ça le plus bas possible, parce qu'autrement votre plante va toujours chercher la lumière, elle va toujours pousser, et puis en fait ça sert à rien de le laisser devenir trop grand, il faut le garder dans un volume assez près, je pense dans les 2-3 mètres de hauteur, c'est ce que vous aimeriez, je pense.
pensez, ouais.
Même pas autant.
Il est presque en dessus de la maison.
Ah oui, alors ouais, peut-être qu'il y a une taille plus importante à faire, mais ça dépend tout du squelette, ça dépend de son âge. Je pense que c'est mieux de discuter avec quelqu'un en face de la plante pour voir justement par rapport à son âge, par rapport à ce qui s'est déjà développé, ce qui a lieu de faire exactement. Par téléphone, c'est un peu compliqué de donner des réponses très précises.
Il doit avoir 50 ans.
Oui, alors la taille ne serait pas la même qu'une jeune plante. Moi, j'imaginais que c'était une jeune plante qui avait quelques années. Oui.
Alors,
ouais.
Merci, Marie-Thérèse.
Je rigole. Écoutez, il me donne 600 kiwis par année. Alors, je ne serais pas trop taillé.
Oui. S'il a 50 ans, je pense que vous avez trouvé au niveau de la taille un rythme qui lui convient bien et puis que vous maîtrisez bien. Donc moi, je serais presque tenté de dire continuez de faire comme ça en l'éclaircissant, puis continuez de pratiquer cette taille que vous avez l'habitude de faire. S'il est régulier dans sa croissance et dans sa fructification, je pense que vous n'êtes pas loin de la réalité, en tout cas de ce qui lui convient.
Une chose, c'est que mon mari, il m'avait dit que j'étais folle parce que j'ai seulement pressé un kiwi.
Vous avez seulement, j'ai pas compris.
Précis un kiwi. Il a poussé.
Oui. Donc, mais si la plante, si vous l'avez pressée et que la graine est tombée au sol et puis que les conditions sont bonnes, c'est normal qu'il se développe. Alors, c'est normal, hein, y a pas de souci. C'est sa méthode de reproduction normale à l'état spontané.
Mais le voisin, il voudrait me demander des pousses. Puis j'ai jamais pu faire des pousses après maintenant. C'est pas des trop grands kiwis, mais c'est super. Hein?
Bon, alors il y a plusieurs méthodes de multiplication que vous pourriez faire. Vous pourriez essayer peut-être par le bouturage, vous pourriez essayer par le marcottage, vous pourriez essayer par...
J'ai déjà essayé tout ça.
Mais ça devrait fonctionner, mais c'est simplement peut-être la période que vous l'avez fait qui n'était peut-être pas la bonne. Peut-être attendez un petit peu, voilà, essayez plutôt de faire ça quand vous êtes en pleine végétation pour du marcottage. Et puis après, vous essayez par le semis comme vous l'avez fait en automne en lui donnant un 2 kiwis. Et puis après, il fait bien attention pour garder la graine et puis la replanter à la saison prochaine. Donc ça peut être une bonne formule. Hein.
Merci Marie-Thérèse. On vous souhaite une bonne journée.
On va laisser un petit peu la place aux autres, Marie-Thérèse. On a des autres questions.
Bye bye.
Bonjour.
Bonne journée Marie-Thérèse. Parce que nous avions Christophe de Kourou qui nous avait envoyé un formulaire pendant la semaine. Il nous demande quelle est la meilleure période pour scarifier le gazon au printemps. Est-ce qu'il faut le faire avant ou après la première tonte?
Alors, c'est bien après la première tonte. En fait, la scarification, si on veut que ça fonctionne à 100%, il y a toute une chronologie d'événements qu'il faut bien poser. C'est un travail qu'on va plutôt mettre en place sur mai, on va dire, à partir de la mi-mai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant une scarification, en général, on essaye de se débarrasser des mauvaises herbes. Donc pour ça, on doit appliquer des herbicides sélectifs. Ces herbicides sélectifs, ils ne sont efficaces à 100% que quand les températures nocturnes, elles dépassent les 10 degrés. Donc, pendant plusieurs jours. Donc l'idéal, ce serait d'attendre début mai pour faire ces traitements. On laisse une dizaine de jours le temps que ça réagisse. Et là, on passe le scarificateur. Et puis après, en même temps, on fait un sursemis. Par contre, ce qu'on peut démarrer avant, c'est les épandages d'engrais pour redonner de la force au gazon pour qu'il démarre tout de suite bien la saison, pour que son enracinement devienne puissant, qu'il puisse tirer la nourriture, l'eau qu'il faut pour qu'il y ait des réactions importantes. Et ce qui va permettre aussi, si on a une graminée sélectionnée qui est bien forte, de faire une concurrence naturelle par rapport à ce qui est la mauvaise herbe. Donc attendez pour cette clarification. Je sais que dès qu'il fait bon, on a envie de retourner au jardin, on a envie de s'occuper des gazons, mais pour l'instant, mettez l'engrais, faites des tontes régulières et seulement plus tard, quand les températures sont bonnes, pratiquez ces scarifications, vous serez beaucoup plus récompensé.
Qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait pas de scarification pendant une année?
Ce qu'il y a, c'est qu'on a des feutrages qui se mettent en place et puis ces feutrages, ils vont absorber les humidités qui ne vont plus profiter au gazon. Dès les premiers rayons du soleil, ces humidités, elles vont commencer à être séchées par le soleil, évaporées, et donc cette humidité ne va pas profiter à votre gazon, tout simplement. Et plus le feutrage sera important, plus notre gazon, notre composition de graminées va faire un pas en arrière. Et gentiment, notre gazon, il va commencer d'évoluer vers des choses plus moussues ou plus riches en mauvaises herbes.
Hélène possède un yucca qui malheureusement a moisi à l'intérieur. Elle a entendu dire qu'il était possible de couper le tronc et de le replanter en terre afin d'obtenir à nouveau des racines saines. Est-ce vrai? Et si oui, comment procéder pour que cela fonctionne?
Alors, il a moisi, il faut voir jusqu'où il a moisi. Donc, je pense qu'il s'agit d'un yucca d'intérieur. Donc après, effectivement, on peut couper jusqu'où c'est que le tronc est sain de nouveau. Et on pourrait avoir la chance de voir redémarrer des yeux, des petits bourgeons qui sont dormants, qui sous cet accident qui s'est passé vont se réveiller avec la peau de sève parce que la partie souterraine ne sait pas ce qui s'est passé vraiment en dessus, donc elle va continuer de tirer de l'eau et de la nourriture si ça s'est passé il y a peu de temps, et puis donc la plante va commencer à réagir par faire redémarrer toutes ces petites pousses. Donc ça pourrait se passer comme ça, mais il faut réagir assez vite pour que le mal ne descende pas trop profondément puis que la plante ne pousse pas jusqu'au cœur.
Pendant un an, j'ai eu un petit gingembre en pot qui se portait à merveille. Du jour au lendemain, il a perdu toutes ses feuilles et puis il ne lui reste maintenant plus que les branches. Est-ce que vous avez une solution pour faire revivre ce petit gingembre? C'est Chloé de Tramelan qui nous demande ça.
Alors, c'est le genre de mal qu'on peut rencontrer sur plusieurs plantes durant l'hivernage. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. On rencontre ça sur des citronniers, sur des oliviers, des choses comme ça qui ont été mis dans des conditions pas très adéquates sur la période hivernale par rapport aux températures, par rapport à l'arrosage, par rapport à l'exposition aussi. Donc ce qu'il faudrait, c'est des températures un petit peu plus fraîches pour qu'ils se reposent quand même. Il faudrait un arrosage pas trop abondant mais suivi. Ce qu'il faudrait faire, c'est quand on apporte de l'eau, c'est difficile de donner des quantités parce que ça dépend de la grandeur de la plante, ça dépend de la grandeur du pot. Donc ce qu'il faudrait, c'est que l'eau qu'on apporte ne s'écoule pas dans l'assiette. Il faudrait qu'une fois qu'on a arrosé, on aura la couche du terreau de dessus qui sera humide. Donc avant le prochain arrosage, il faudrait que cette couche supérieure se dessèche. Et là, on raponne un deuxième arrosage. En hiver, on dit qu'il ne faut pas mettre d'engrais, mais pour ces plantes-là, il se passe quand même quelque chose. Elles ont de la feuille verte, elles continuent quand même de croître, donc de bouger. On voit même qu'il y a des petites pousses, des petites feuilles, voire des floraisons qui se font pour certaines. Donc par rapport à ça, je pense qu'il est quand même bien, tous les 3-4 semaines, d'apporter un engrais spécifique par rapport à chacune de ces plantes que vous aurez. Et puis à partir de la belle saison, peut-être d'augmenter à une fois toutes les semaines, tous les 10 jours. Ça dépend quel type de plante vous avez, ces engrais spécifiques. Et puis, normalement, vos plantes devraient passer l'hiver assez bien.
Le gingembre, Fabrice, ça pousse facilement dans nos régions?
C'est toujours une question de trouver sa place dans nos maisons, nos appartements. Hein. Si on arrive à trouver sa place au niveau, comme on le disait, au niveau des températures, puis qu'on trouve son rythme, qu'on se documente un petit peu, et puis après, c'est une question de le mettre dans des conditions adéquates, c'est quelque chose qui doit fonctionner, oui.
Merci Fabrice Rondet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez faire comme Marie-Thérèse et nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser toutes vos questions. Il y a aussi le formulaire internet sur notre site et bien sûr le SMS au 939. Vous tapez le mot jardin en début de message et un espace avant votre question.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Les jardinières, deuxième partie, on est ensemble jusqu'à 8h le samedi matin, c'est notre activité préférée, le jardinage en bonne compagnie. Et ce matin, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, qui est avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant.
Et n'oubliez pas que Les Jardinières, c'est votre émission. La parole est à vous si vous avez des questions au sujet de vos plantes d'intérieur, de vos arbustes, de vos fruitiers, de vos plates-bandes. N'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et ainsi, vous aurez l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Fabrice Rondet. On lira également toutes vos questions reçues par SMS. Il vous suffit d'indiquer le mot « jardin », un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet « Émissions, questions aux jardinières ». Si vous choisissez de nous écrire, n'hésitez pas à nous fournir le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et pour tout complément, bien sûr, il y a toujours le numéro de téléphone 0901 70 20 20.
Et Véronique de Fleurier, elle a choisi le SMS pour nous poser sa question. La voici. Le terreau de mes plantes d'intérieur est infesté de moucherons. Que faire?
Alors, ça veut dire qu'on a une petite ponte qui s'est mise en place, qui est avec une éclosion. Donc, on pourrait profiter peut-être de rempoter et puis de remettre cette plante soit dans le même pot, si elle est déjà très grand ce pot, ou alors peut-être de profiter de passer un pot avec un diamètre supérieur. Pour ça, ce qu'elle pourrait faire, c'est enlever la partie supérieure du terreau pour revenir jusqu'à la racine sans l'endommager, en grattant gentiment avec les doigts, sur les côtés aussi, et puis après de le remettre dans un nouveau pot, et puis remettre du terreau. Comme ça, on pourrait avoir une plante qui redémarre la saison avec tout ce qu'il lui faut en matière nutritive, et puis profiter aussi de s'épanouir un petit peu plus.
On a reçu un autre SMS, mon avocatier dans un pot a les feuilles du bas qui deviennent noires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Fabrice ?
Les avocats, quand ils démarrent, bien souvent, ils partent bien, ils font les premières feuilles, et puis après, en grandissant, ils ont tendance quand même à chercher la lumière, à s'allonger et à porter leur végétation sur le sommet et à se dégarnir vers le bas. Il est difficile, enfin, à ma connaissance en tout cas, j'ai jamais vu des feuilles avec, enfin, des avocats avec des feuilles depuis le bas de la tige jusqu'au sommet, bien garnies comme certaines autres plantes vertes. C'est un processus dans les appartements qui fait assez comme ça. J'ai malheureusement moi-même pas assez réussi d'avocat pour conserver cette végétation correcte du bas de la tige au sommet de tige. Je pense que c'est une évolution un petit peu normale dans nos appartements quand même.
Et les avocats, justement, est-ce que c'est une plante qui peut tenir longtemps ou c'est le genre de plante qu'il faut sans cesse renouveler ? Est-ce que c'est fragile ?
Mais disons qu'il faut être assidu dans les soins pour que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à plus vite mourir dans nos mains. C'est vrai que les gens ont tendance à toujours redémarrer des jeunes pousses plutôt que d'avoir des plantes qu'on pas mal d'années dans le pot. C'est vrai que c'est une plante qu'on a un petit peu du mal de tenir comme il faut. Mais c'est possible, c'est possible.
Des avocats, on passe aux cerisiers. Claude de Corcelle a quelques cerisiers dans son champ. Ils ont été inondés dernièrement à cause de la fonte des neiges et du surplus d'eau. Ce sont des cerisiers assez âgés, 30 ans. Que peut-il faire pour les sauver et pour qu'ils donnent à nouveau des fruits, Fabrice ?
Alors, pour ce qui est du problème hydrique, moi je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que nos sols en général, ils sont là pour éliminer cette eau naturellement, soit par ruissellement, soit de surface, soit en profondeur, par drainage naturel du terrain. Donc, si l'eau stagne encore un petit peu, il faut juste laisser ce travail se faire naturellement. Après, ça peut vouloir dire que le terrain est peut-être gelé encore un petit peu en profondeur, qui empêche le passage de cette eau d'une façon rapide. Après, pour ce qui est de la fructification, donc pour la fructification, c'est un autre problème. Il suffit de faire une taille appropriée. Et puis, au moment où c'est qu'on aura une floraison, ben, faut juste jouer de chance pour pas qu'on ait de gel, pas qu'on ait trop de pluie, pas trop de brouillard, pour que la pollinisation se fasse correctement et la fructification devrait se faire normalement.
Pour l'instant, vos pronostics pour les cerises cette année, on peut déjà le faire ?
Non, du tout. C'est trop tôt. Du tout, parce que chaque année, on a tendance à crier catastrophe dès qu'il y a un coup de froid ou des choses comme ça. Puis après, on voit que la nature arrive à corriger les choses. C'est toujours assez local. Et puis, en fin de compte, la nature se rattrape pas mal, à part des années exceptionnelles, un peu comme l'année passée, où c'est qu'on a eu pas mal de casses. Mais en règle générale, on arrive toujours à avoir des récoltes.
En tout cas, on est impatients d'en déguster. Hein.
Ah oui,
ça, c'est sûr. Quand il y en a, on est content. On a une nouvelle question de Solène qui est partie une semaine en vacances et qui a retrouvé son azalée infestée de petits insectes blancs. Elle nous dit qu'il s'agit d'une plante en pot qu'elle a depuis cet automne et que les petits insectes sont longs et fins et qu'ils semblent pouvoir voler. Elle a sorti la plante pour éviter qu'elle infeste toutes les autres. Mais alors, comment est-ce qu'elle peut traiter cette plante, Fabrice ?
Alors, le moyen le plus rapide pour son environnement et les autres plantes qu'elle pourrait avoir, c'est de faire ça doit être une mouche blanche. Donc, il faudrait tout simplement peut-être prendre une photo assez détaillée en faisant un petit macro, un truc comme ça, et puis aller dans un centre de vente, le montrer pour être sûr à un vendeur, si elle n'arrive pas à le déterminer elle-même sur un produit spécifique pour l'insecte concerné, pas qu'elle traite toutes sortes de choses et puis pas celui-là. Donc, ou bien qu'elle prenne un produit qui détruit tout. Mais en faisant un bon traitement comme ça devrait très vite disparaître.
J'ai un magnifique rhododendron, mais il est dans un pot. Pourrais-je l'installer en pleine terre? Si oui, à quoi faut-il faire attention? Et quel est le meilleur moment pour le faire? C'est Myriam de Mervelier qui nous demande cela.
Alors, le rhodo en pot, je pense qu'il est dehors. Donc, si c'est le cas, ben, elle peut faire une plantation en pleine terre maintenant. Les choses à faire attention, c'est que c'est des plantes de terre de bruyère. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une fosse de plantation en prenant le soin de retirer la terre qu'on a de la région pour la remplacer par de la tourbe. Cette tourbe, il faudrait faire une poche de plantation. L'idéal, ce serait en tout cas de 60 par 60 par 60, de mettre une natte spéciale pour entre la tourbe et la terre naturelle. Et puis ensuite, la période, ben, les plantations, on les commence maintenant. Et puis elle peut faire ça comme elle veut jusqu'à fin avril, mai. Mais plus tôt elle le fera, mieux ce sera pour la reprise.
Merci Fabrice. Vous avez
la situation, encore, je n'ai pas dit, c'est à l'envers. Nord-ouest plutôt que plein sud. Hein. Plein sud, elle ne se plaira pas trop.
Merci pour cette précision. Il n'y a pas de souci, la parole est à vous. Et aussi à vous, chers auditeurs, pour poser toutes vos questions au 0901 70 20 20. Ça, c'est si vous voulez parler directement avec Fabrice. Mais vous pouvez aussi nous écrire par SMS au 939. Vous tapez le mot « jardin », un espace avant votre question. Et puis, il y a aussi le formulaire internet sur notre site.
7h, 8h, les jardinières.
On m'a conseillé de planter une haie pour couper le vent autour de ma maison. Alors qu'est-ce que vous me conseillez de planter? C'est Jean-Marc de Boudry qui nous pose cette question.
Alors, pour protéger du vent, déjà la haie devra être assez haute. Ça dépend en fait du terrain que vous avez entre la haie après et votre maison. Mais plus la surface sera longue qui sépare la haie de votre maison, plus la haie devra être haute. Donc, il ne faudra pas importuner peut-être le voisinage, bien se renseigner avec ça. Après, au niveau des types de végétaux, bon, on a plusieurs façons d'aménager une haie. On peut mettre une haie monospécifique, donc c'est-à-dire avec une seule sorte de plante, comme du thuya, du laurier, des troènes, du charme, des hêtres, du hêtre rouge, de l'if. On a vraiment tout plein de plantes. Donc il faudrait déjà, si on travaille avec du monospécifique, faire une différence pour vous par rapport à votre choix, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, bien sûr, mais aussi par rapport à si vous voulez du caduc ou du persistant, c'est-à-dire avec des feuilles qui tomberaient pendant la belle saison, puis des feuillages qui resteraient toute l'année. Et puis après, on a la possibilité de travailler avec avec plusieurs types de plantes, où c'est qu'on pourrait utiliser toutes les plantes qui nous plaisent, en prenant soin peut-être de jouer avec les couleurs, en prenant soin de jouer avec des caducs et des persistants, justement par rapport à créer des petites surfaces pour se préserver de l'intimité, par exemple d'une terrasse à une porte d'entrée ou à une autre terrasse chez le voisin. Donc on peut jouer avec des persistants pour la saison hivernale. Et puis après, de jouer avec les couleurs des feuilles, des fleurs, des époques de floraison, c'est peut-être le plus important, pour que vous ayez des fleurs qui commencent le plus tôt possible dans l'année, puis qui finissent avec les arbustes qui donnent les dernières fleurs, avec des fructifications décoratives. Et puis en tenant compte de tout ça, vous pourriez avoir quelque chose d'extrêmement décoratif autour de chez vous.
Si on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de notre haie, ou bien on a tout simplement la flemme, quel genre de haie faudrait choisir qui est assez simple d'entretien?
Alors la haie qui donnerait le moins de travail, qui me vient tout de suite à l'esprit, bah, c'est une variété de thuya qu'on appelle le thuya smaragd. Et puis ça, c'est une haie qu'on a juste à égaliser dans sa hauteur. Les côtés, on a pratiquement rien à faire, voire rien du tout à faire, en tout cas pendant toute une bonne série d'années, parce qu'elle a une croissance pyramidale qui est très peu, donc qui développe très peu dans sa largeur. Et puis autrement, si vous voulez pas trop faire ce travail, il y a toujours des professionnels qui seront pour vous aider.
Il se fait de la pub.
Et il a bien raison.
Pourquoi pas
raison, mais oui. Fabrice, on se met au travail hein, maintenant. Voilà. Il y a encore des questions. Hein. Après les fortes précipitations, mon jardin est envahi de mousse. Même que l'hiver n'est pas terminé, je l'ai enlevé et mis dans mon compost. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Et que faire pour que la mousse ne revienne pas? C'est Stéphane Dorvin qui nous pose cette question.
Alors, pour les mousses qui se développent dans le jardin, je pense qu'il voulait parler de son gazon.
Oh oui, je pense que c'est le gazon, oui, voilà. Effectivement.
Donc, d'avoir ratelé ses surfaces, maintenant, oui, il peut le faire s'il a des belles journées, tout ça, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais attendu un petit peu, peut-être plus tard. Maintenant, ça peut aller si le terrain s'y prête bien pour pas arracher le gazon. Parce que le terrain, s'il est bien mouillé et tout, on pourrait faire un petit peu des dégâts. Après, pour empêcher qu'il ne revienne cette mousse, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu exciter la végétation du gazon en faisant des apports d'engrais tout au long de la saison avec des engrais complets pour justement, on parlait avant de faire une concurrence naturelle avec un gazon qui est bien engraissé, avec un bon développement. Il va rester peu de place au sol pour un développement de mousse et une invasion de mauvaises herbes. Donc il faut exciter cette végétation. Et puis une fois qu'on a gagné sur la graminée avec un 90-95 voire 100% de développement, on peut dire qu'au niveau de la mousse, en faisant ça, on va aussi enrichir les sols, donc on aura aussi moins de venue de mousse. Après, par rapport à ça, quand on fait un travail comme celui-là, ce qu'il faut faire vraiment derrière pour recombler les trous qu'il a, il faut faire un sursemis. Ça, c'est super important. Puis, il ne faut pas faire un sursemis peut-être avec n'importe quoi, mais utiliser une semence de régénération de gazon. Et puis, comme ça, les choses devraient bien se passer. Après, la mousse, elle peut venir pour d'autres raisons aussi, parce qu'on n'a pas assez d'apport de lumière, de choses comme ça. Donc, s'il a des grands arbres, peut-être regarder pour les redimensionner, les retailler un petit peu, pour apporter de la lumière, pour que le gazon se porte bien. Je pense que s'il fait ces trois points-là, le sursemis, l'apport d'engrais, une tonte régulière, avec une taille, on devrait avoir déjà une belle réussite dès la première année. Si on regarde à septembre de cette année, on devrait avoir une évolution assez importante du gazon dans le bon sens.
Parce que selon vous, la mousse, donc si on ne fait rien, ça ne part pas tout seul.
Non, ça peut être lié aussi à des problèmes de respiration, d'humidité. Ça peut être aussi lié à des problèmes d'ombre portée. Si on est en situation nord-ouest, on a toujours, par rapport au sud, on a toujours aussi des développement de mousse plus important. Mais si on met ces tontes, cet apport de lumière, ces apports d'engrais, on peut se retrouver avec des gazons magnifiques.
Jacqueline possède un terrain depuis 10 ans, mais il est en jachère depuis de nombreuses années. Elle aimerait le cultiver, faire un jardin potager et pourquoi pas planter quelques arbres. Y a-t-il des choses à prendre en compte avec ce genre de terrain? Peut-elle le faire elle-même ou c'est préférable de demander à un professionnel, Fabrice?
Alors, ça dépend de la grandeur, ça dépend par rapport à cette grandeur, de ses capacités physiques aussi, parce que ça peut être un premier travail, la première année qui peut être dur physiquement. Ça dépend après aussi par jachère. Je pense que ça peut être un gazon ou bien un terrain qui n'a pas trop été entretenu. Et puis, juste de partir en gazon. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est le labourer, passer le motoculteur. Après la première année et la deuxième année, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut avoir des venues de mauvaises herbes assez importantes. Et après, en continuant l'entretien d'une façon régulière sur un potager, elle verra que sa population et son type de mauvaises herbes va évoluer. On va passer de plantes vivaces plutôt à des plantes annuelles. Et puis les choses devraient s'améliorer assez rapidement. Après, mon grand-père me disait toujours que pour nettoyer un terrain, pour faire un potager la première année, il faudrait planter des patates. Donc peut-être elle pourrait essayer comme ça pour déjà faire cette première saison. Après, il y a toujours des moyens radicaux qui existent, comme mettre en place des herbicides totaux et puis après démarrer avec son potager. Mais voilà, tout le monde ne veut pas le faire, mais autrement, ce qu'on peut faire, c'est travailler par un sarclage, un labourage. Le labourage, on peut le faire si on le fait à la bêche, en mettant la partie verte. On fait 180 en fait avec la terre, mettre la partie verte en bas et les racines en l'air pour que ça se transforme en engrais vert. Donc il y a tout plein de petites astuces comme ça qu'on peut faire. Effectivement, s'il y a un professionnel qui peut lui expliquer ça sur le terrain ou bien si elle a compris comme ça, je pense que les choses devraient aller assez rapidement dans le bon sens.
Pourquoi il faudrait planter des patates?
Parce que c'est une plante qui se développe bien, qui a un feuillage aussi qui est très abondant, et puis qui va couvrir, qui va prendre beaucoup d'énergie, et puis qui va nettoyer les sols. Il va faire une concurrence un peu naturelle, tout simplement. On a, si on a des légumes qui sont un petit peu plus petits, y a la place pour tout le monde pour se développer. C'est juste mettre une concurrence en place.
Et pour un terrain qui est en jachère, il se compose comment par rapport à un terrain qui justement ne l'est pas ? C'est beaucoup plus tassé ou...
Alors en général, un terrain qui est en jachère, ça veut dire exactement déjà qu'on a un terrain qui n'a pas été travaillé au niveau de sa structure. Donc on a un terrain qui est plus compact. Et puis après, par jachère, en général, ce qu'on entend, c'est un terrain qui n'a pas été planté, pas été travaillé dans sa couche supérieure. Et puis ensuite, qui est composé bien souvent de végétation spontanée, comme des pâquerettes, des marguerites. Ça dépend quelle hauteur elle a laissé se développer, si c'était un gazon qu'elle tondait d'une façon répétitive, ou bien si c'était un coin où c'est qu'elle faisait deux fauches par année pour avoir une prairie fleurie, prairie maigre. Donc, tout dépend de ça. Elle aura une floraison et puis une graminée plus ou moins haute. Donc, en général, c'est de ça qu'on parle.
Et en ce moment, au jardin, Fabrice, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire rapidement ?
Mais on est en plein dans les travaux de taille. On est en train de regarder pour nettoyer aussi ces jardins, ces alentours. On est en train de regarder aussi pour éventuellement, je pense, repenser des petits coins en se disant, ben tiens, je pourrais extraire cette plante-là, puis il y a celle-là qui me plaît, ou bien s'intéresser pour rajeunir ou redonner un nouveau look à son jardin en changeant un petit peu des massifs. Bref, commencer de se reprojeter dans son été. Imaginez comment on aimerait le voir se développer, rapporter des nouvelles couleurs, des nouvelles floraisons, et puis se préparer une belle saison, un bel été.
Notre émission Jardinage du samedi matin arrive donc déjà à son terme. Fabrice Rondet, merci. Merci beaucoup de nous avoir aidé à répondre à toutes les questions des auditeurs. On vous retrouvera évidemment très très bientôt. Belle journée.
Une belle journée, un bon week-end.
Les jardiniers reviennent la semaine prochaine pour vous aider à soigner vos espaces verts.
D'ici là, si une question vous passe par la tête, vous pouvez déjà nous la poser par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites. Vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h dans notre prochaine édition des jardinières. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.